Et sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Élisée Rumpati en direct avec vous. Dans ce programme ce soir, on reviendra sur le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine de football qui aura lieu au Maroc. Tous les qualifiés sont connus et ce sera sans la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Et puis, on fera le point sur la troisième journée des matchs de poule des interclubs de la CAF. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Je salue Amine Birouk qui est à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamba Yamba est à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
De Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Et puis, on prend la direction de Dakar au Sénégal pour retrouver Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Sporama, c'est parti. Avec moi dans ce studio, Lawal Dine Kosourou. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée.
Voilà, Lawal, depuis près d'une semaine, tout s'est arrêté en Ukraine suite à l'invasion des Russes. Une guerre qui ne sera sans conséquence au vu de la place qu'occupe la Russie dans le sport mondial. D'ailleurs, des compétitions ont déjà été déplacées, à commencer par la prestigieuse finale de la Ligue des Champions. Et que dire des acteurs obligés de fuir l'Ukraine? Pape Djibril Diaw, footballeur sénégalais qui évolue à Rouk Liv, première division ukrainienne, a quitté le pays avec sa voiture pour rallier la France, en passant par la Pologne, ensuite l'Allemagne. Joint par Yacouba Ouédraogo, l'international sénégalais raconte son calvaire.
Le jeudi, on a été réveillé par une sirène. Donc, par la suite, on s'est informé du côté du club et ils nous ont fait savoir que le championnat a été suspendu. Donc, nous, on a de suite essayé de quitter le pays parce qu'on sentait que ça devenait dangereux et qu'à tout moment, ça, les bombardements pouvaient arriver à Lviv. Donc vers 14h, on a quitté pour arriver là-bas vers 16h. Et arrivé là-bas, on a vu qu'il y avait beaucoup de voitures, donc il fallait prendre son mal à patience. Finalement, on a réussi à traverser la frontière polonaise vers minuit, par la grâce de Dieu. Donc ça n'a pas été facile parce que nu était le fait qu'on avait une voiture, ça allait être très très difficile de passer la frontière.
Djibril Diaw a joué en France où se trouvent sa femme et ses enfants. Lawal, une situation difficile que traverse le pays et ses habitants.
Oui, Élisée, c'est bien malheureux que cette crise-là intervienne à ce moment précis où on est sorti d'une crise Covid. On n'est même pas encore sorti de l'auberge par rapport au Covid et que l'invasion russe puisse emblaver le monde de cette façon. On a bien l'impression que il y a comme le sort qui s'acharne contre le sport à travers le monde. Est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle crise alors qu'on n'a pas fini de gérer celle du Covid qui a tout chamboulé au passage? Parce que c'est inconcevable que dans un monde démocratique que l'on attaque comme ça une nation souveraine. En tout cas, ils savent ce qu'ils ont. Mais fondamentalement, les sportifs ont encore beaucoup de craintes à avoir par rapport à cette nouvelle situation.
On vient maintenant sur le continent africain pour parler des interclubs de la CAF. On jouait la troisième journée de la phase de poule en Ligue des Champions avec la défaite du champion en titre à la Ligue qui s'est incliné 1-0 à domicile contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Jules, c'est une immense surprise.
Certainement, Élisée. Cette défaite à domicile dans un match de poule d'une Ligue africaine des clubs peut apparaître logiquement comme une surprise si l'on considère le très récent parcours de la mythique formation du Caire, dont les joueurs viennent d'aligner en un mois à peine deux performances de premier plan en finissant sur les podiums de la Coupe du monde des clubs et de celle des nations d'Afrique, où six de ces joueurs ont opéré sur des compartiments de jeu différents. Alors, quoi de plus logique que de prédire au national Al-Ahly impunité en cette nouvelle campagne continentale des clubs quand on sait qu'il n'y a pas mieux que la compétition pour préparer une autre compétition. Mais il faut aussi dire que face à une équipe de la trempe de Mamelodi Sundowns, la défaite du champion en titre n'est qu'une surprise à moitié obtenue. Les Brésiliens sud-africains, comme on les surnomme, sont quand même les dignes représentants réguliers depuis deux décennies de l'autre grand foyer de football professionnel du continent, aux côtés de l'Afrique du Nord. Ils sont d'ailleurs les récents champions d'Afrique ou habitués aux places d'honneur. Les Sud-Africains ont également su exploiter la saturation des joueurs égyptiens au calendrier surchargé et profiter d'un statut d'outsider qui leur enlevait toute pression, le reste ne dépendant que du scénario de la rencontre. Tant mieux pour le suspense.
Les Égyptiens, avec un petit point, sont classés troisième dans un groupe A dominé par le club de Pretoria. Contre-performance également pour l'autre club du Caire. Le Zamalek, troisième aussi dans sa poule, après avoir subi un revers de 3-1 au Maroc face au Wydad de Casablanca. Amin Birouk, le WAC s'est repris et le sans-faute se poursuit pour le Raja.
La sans-faute du Raja se fait non sans difficulté parce que l'équipe vice-championne du Maroc a été totalement bousculé par le Royal Conakry. Et si ce n'était les interventions du gardien Marouane Fakhr, le sang-froid des deux arrières centraux, Hed Houdi et Harkas, et surtout le talent, la vista, l'expérience, le vécu, le leadership de Mohsin Metwaoudli, je pense que le Raja n'aurait pas gagné le match. Et d'ailleurs, c'est son vétéran qui a contribué à tirer l'équipe vers le haut. C'est son deuxième but en trois matchs. Un but sur la seule occasion nette que s'est créé le Raja, et encore sur une erreur défensive ou sur une erreur du gardien guinéen. Le Raja est donc presque qualifié. Il va falloir maintenant aller prendre un point à Conakry pour pouvoir voir la vie en vert, ou plutôt la vie en rose. Du côté du Wydad, il y a eu la présence du joueur numéro 12. Aujourd'hui, les restrictions sanitaires font que le Maroc peut accueillir des supporters sur ses terrains. Et c'était le cas pour le match contre le Zamalek, un public qui a fait du boucan, un public qui a poussé son équipe, qui lui a permis de ne pas sombrer lorsqu'elle a été menée au score grâce à un but incroyable de Zizou. Et puis il y a eu ce sursaut d'orgueil, cette volonté, cette grinta qui a permis Wydad de l'emporter sur le score de 3-1. Un Zamalek KO debout, un Wydad qui voit avec davantage d'optimisme la suite de la compétition. Il va falloir maintenant aller faire un coup en Égypte, histoire de se rassurer, car pour l'instant, ce groupe qui semblait promis aux Marocains et aux Égyptiens, un trouble fait qui s'appelle Pretro Atlético de Luanda.
Le Raja de Casablanca, justement vainqueur 1-0 du Oroya de Conakry. Le club guinéen est tout proche de la sortie. Troisième défaite en trois matchs. Troisième journée également en Coupe de la CAF. Et dans la poule A, le club égyptien Pyramide poursuit son sans-faute avec un succès 1-0 contre les Tunisiens de Sfax. On revient vers vous, Amine. Après sa défaite au Bénin, la renaissance du Berkane s'est relancée à domicile en disposant des Tanzaniens de Simba 2-0. Attendu, les Marocains ont réagi et virent ainsi en tête du groupe D.
Il y a une potion magique concernant le comportement des clubs marocains, que ce soit le Raja, le Wydad et Berkane. C'est le retour du public ce dimanche face à l'équipe de Simba qui était considérée comme l'épouvantail du groupe. L'équipe de la Renaissance sportive de Berkane a enfin retrouvé ses boîtes de 7 lieues. On est loin de l'équipe balbutiante d'Abidjan, l'équipe avec une défense passoire contre la gendarmerie nationale du Niger. On a retrouvé une équipe solide, basée sur des fondamentaux et qui aurait pu gagner avec un score beaucoup plus large. 2-0, 2 pénaltys oubliés en cours de route via un arbitrage scandaleux, beaucoup de solidarité et de solidité, et voilà la RSB qui retrouve sa place naturelle, c'est-à-dire la tête du classement avec 6 points. Il va falloir maintenant confirmer tout cela dans une quinzaine de jours lors du déplacement qui sera loin d'être une promenade de santé en Tanzanie.
Dans ce groupe, belle victoire des Nigériens de l'US Gendarmerie Nationale, la première dans cette phase de poule, et elle a été obtenue contre l'ASEC d'Abidjan. Un succès net de 2-0. Un résultat qui propulse le club de Niamey à la seconde place. Enfin, le TP Mazembe, vainqueur 1-0 du Coton Sport de Garoua en toute fin de rencontre, prend la tête du groupe C avec 6 points. Valdo, une nouvelle fois, les corbeaux se contentent du minimum.
Un service minimum qui en valait la peine, Élysée, puisqu'avec cette victoire d'un but à zéro, quoique acquise dans la douleur, Mazembe s'est non seulement bien repris de sa défaite lors de la deuxième journée de cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, les Corbeaux prennent les commandes de ce groupe avec 6 points sur les 9 possibles et position de leader, conséquence notamment de la surprenante défaite des Égyptiens d'Al-Masri à Kinshasa, battu 1-0 par Otto du Congo-Brazzaville. Mazembe, de son côté, s'est remis au génie des Trésors Poutou, auteur de la lumineuse passe décisive sur Likonda, qui inscrit à 5 minutes du terme l'unique but de cette rencontre peu réaliste avec ses attaquants qui n'ont inscrit que 2 buts en 3 matchs. Mazembe peut bien se contenter de ce score qui lui permet d'être un peu plus à l'aise avant d'entamer la manche retour avec plus d'envie et de réalisme. Question de s'assurer une de 2 places qualificatives au terme de cette phase de groupe.
Dans l'autre rencontre du groupe, les Congolais de l'AS Otto-Odo, victorieux des Égyptiens d'Al-Masri 1-0, sont deuxièmes. La prochaine journée aura lieu dans 2 semaines. Le football au féminin cette fois avec le dernier tour des éliminatoires de la CAN au Maroc. Et on connaît les 12 équipes qualifiées. Ce sera avec le Burkina Faso qui, non sans peine, a battu 2 fois la Guinée-Bissau, 6-0 et 1-0, tout comme le Togo face au Gabon, 1-0 à l'aller et 2-1 au retour. Lawal, Burkinabé et Togolaise y seront pour la première fois de leur histoire.
Cette qualification, elle est historique pour le Burkina Faso et c'est une consolation pour les Togolais qui, au masculin, n'ont pas réussi les 2 dernières éditions. La qualification pour la CAN, donc si les femmes l'ont fait, c'est une façon de leur montrer le chemin et il faut être endurant véritablement. Et les femmes ont montré le chemin aux hommes. On espère qu'elles vont faire un parcours élogieux pour que leur nom soit inscrit en lettres d'or dans le palmarès donc de cette compétition.
Et voilà qui est clair. Grande première aussi pour le Botswana qui a éliminé le Zimbabwe et le Burundi tombeur de Djibouti. Par contre, le Sénégal va disputer sa 2e CAN après avoir écarté un grand du continent, le Mali, au tir au but. À Médine, 10 ans après leur première participation, les Lions sont de retour.
Tout à fait, Élysée. Un exploit parce que tout simplement, le Sénégal a écarté le Mali qui est un gros morceau car cette formation malienne est demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. D'ailleurs, cette qualification a été acquise difficilement car les Lions qui avaient remporté la première manche au stade La Diore de Thiès par 1-0 se sont inclinés sur le même score lors de la seconde manche qui s'est jouée à Bamako. Donc, les deux équipes étaient à égalité sur l'ensemble des 2 matchs et il fallait passer à la série de tirs au but pour départager ces 2 pays et les Sénégalais ont été plus à droite en inscrivant 3 tirs contre 2 seulement pour les Maliennes. Avec cette qualification, le Sénégal met fin ainsi à une traversée des airs qui a duré 10 ans car la dernière et unique participation des Lions à une CAN remonte en 2012, Élysée.
Autre qualifié, et sans surprise, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Jules Valentin Ngoué, 3 sérieux prétendants pour le titre final.
Oui, Élysée. S'il y a une compétition continentale des nations où les pronostics sont plus aisés à faire jusqu'au stade des demi-finales, c'est bien celle du football féminin, avec une hiérarchie plus nette et plus durable malgré les générations qui passent. Au sommet de la pyramide se trouvent le Nigeria et le Cameroun, dont certaines joueuses opèrent dans les championnats les plus relevés du monde. Leurs rares défaites sur le continent sont souvent accidentelles et généralement liées à des problèmes de préparation ou de primes rapidement rattrapés. Grâce à une politique volontariste continue et des moyens exceptionnels, l'Afrique du Sud les a rejoints au détriment du Ghana et de la RDC en léger recul. Le peloton du milieu est constitué d'un bon nombre d'absadeurs en grand progrès, confrontés à une lutte de positionnement acharnée, le plus souvent régionale. Les foyers les plus actifs sont l'Afrique australe, où la Zambie émerge, talonnée par la Namibie, l'Afrique du Nord, où l'Égypte n'est plus la seule à montrer les dents, l'Afrique de l'Est, où Kenyanes et Tanzaniennes ont laissé passer les Ougandaises et les Burundaises, et le Soudan occidental avec le Sénégal qui a repris le leadership au Mali. Partout ailleurs, à l'exemple du Gabon éliminé par le Togo, Le manque de soutien et des championnats sporadiques décourage tout progrès. C'est pratiquement sûr que ce sera encore une nouvelle fois le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud qui vont se battre pour le titre, même si en football, tout peut arriver.
À noter également les qualifications de l'Ouganda, du Botswana, de la Tunisie ou encore de la Zambie. Cette CAN féminine se déroulera entre le 2 et le 23 juillet prochain dans le Royaume chérifien, un tournoi qui sera qualificatif pour le Mondial de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Football scolaire s'invite aussi dans Sporama ce soir, la Coupe d'Afrique des Nations scolaires qui a eu lieu à Kinshasa en RDC. Un nouveau championnat panafricain de jeunes garçons et filles de moins de 16 ans, proposé par la FIFA et vite adopté par la CAF. 6 équipes dans les deux catégories ont pris part à cette première édition et au terme de 2 jours de compétition. C'est le pays hôte, la RDC, qui s'impose en finale chez les garçons, 3-1 face au Sénégal. Et chez les filles, le Maroc l'emporte sur l'Afrique du Sud par le score de 1-0. Valdo, la consécration pour les Congolais lors d'une compétition qui devrait garantir l'avenir du football.
Élisée, à en croire Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, cette première édition du championnat scolaire panafricain est appelée à s'étendre sur l'ensemble du continent et voire même sur le plan mondial. Les projets pilotes qu'a conduit la RDC a donné satisfaction au patron du football mondial quand on sait que le football étude est l'un des projets qu'affectionne Gianni Infantino. La CAF de Patrice Motsepe est aussi appelée à s'employer parce que les élèves qui prennent part à cette compétition garantissent de quelque manière que ce soit l'avenir du football sur le continent, l'Afrique étant désormais le berceau de ces championnats scolaires panafricains. Ayant porté les projets pilotes, avec à la clé le sacre des garçons, la RDC se trouve dans l'obligation de conduire cette locomotive avec plus d'inquiétude et d'abnégation en attendant que d'autres nations se joignent à elle, puisque, aussitôt terminé, le président de la FIFA a annoncé les préparatifs de la deuxième édition.
Il était aussi question de montrer l'importance qu'a le football dans l'éducation. Et sur ce point, le Maroc, qui a créé un grand centre de formation de football féminin, a pu tirer son épingle du jeu à Kinshasa. Alors, Amine Birouk, le foot féminin est désormais un modèle dans le royaume, en témoigne le championnat professionnel au niveau des seniors.
C'est un modèle de football ou un modèle qui est basé sur la formation sport-études. Et c'est ce qui a permis aux jeunes marocaines U15 de l'emporter parce qu'elles sont... Elle figure dans une classe modèle au centre de football Mohamed VI de Rabat. Elles étudient le matin dans un lycée et puis le soir, elles peuvent se permettre de s'entraîner. Donc, il y a des affinités, des automatismes, un travail de fond en matière de formation qui est effectué. C'est d'ailleurs également le cas pour le pendant masculin qui a fini troisième. Les U15 qui viennent de la région de Berkane suivent quasiment le même modèle et aujourd'hui, il va falloir compter sur la formation à la marocaine, sur le fait que le royaume chérifien est en train de préparer les générations futures de façon à avoir des sélections compétitives U17, U20, U23 qui serviront de tremplin pour l'équipe nationale qui ne doit plus seulement se nourrir des joueurs formés à l'étranger.
Le football des catégories d'âge est une réalité au Sénégal. À Medine Sy, les jeunes Sénégalais n'ont pas démérité devant des Congolais apparemment plus forts.
Oui, Élisée, le Sénégal est en train de faire des efforts par rapport au football des jeunes. Comme vous l'avez dit tantôt, les jeunes Sénégalais du CM Commune 2 de Kédougou ont perdu la finale face à la RDC. Mais il faut dire que les jeunes Sénégalais sont non seulement tombés les armes à la main, mais en face d'eux, ils avaient des joueurs plus âgés. En tout cas, l'équipe masculine de la République démocratique du Congo a notamment été pointée du doigt par les autres délégations en raison de forts soupçons de fraude sur l'âge qui concerne ces joueurs congolais. Mais l'essentiel était de participer et les jeunes Sénégalais l'ont fait de fort belle manière, Élisée.
Ce championnat panafricain scolaire peut aussi servir de détection pour ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de passer par des centres de formation. On vient vers vous, Jules Valentin Ngoué. Sur l'initiative, rien n'a signalé normalement. Maintenant, sur la forme, il y a forcément des choses à revoir.
Mais Élisée, avant de chercher la forme, Il faut d'abord saluer l'initiative qui ressemble à s'y méprendre à un véritable retour aux sources. Car ce ne sont pas les anciens qui me démentiront. Dans les années 50, 60 et 70, le football africain des clubs se nourrissait essentiellement dans le vaste vivier du football scolaire et universitaire qui a révélé tant de talents, parfois les